France Inter.
Bienvenue dans À la Régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on reçoit un artiste qu'on ne présente plus mais qu'on redécouvre à chaque disque. Auteur, compositeur, interprète, producteur, acteur, Benjamin Biolay traverse les époques avec les styles et avec élégance, un mélange de spleen et d'ironie, d'ombre et de lumière. Après des disques comme Grand Prix, Palermo Hollywood, Sinclair ou l'inévitable La Superbe, il revient avec un nouvel album au titre simple mais énigmatique, le Disque Bleu. Un projet où il explore à nouveau les contours de la chanson française, de la bossa nova entre orchestration somptueuse, mélancolie assumée et éclat de modernité. On parlera aujourd'hui de musique bien sûr, mais aussi de cinéma, de souvenirs, de son rapport à Paris et de cette pluie qui n'en finit plus de tomber dans cette ville. Bref, tout ce qui fait la matière vivante de son œuvre. Nous sommes avec Benjamin Biolay pendant une heure à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Bonsoir Benjamin Biolay.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Bon, je suis content que tu sois là.
Moi aussi.
Pour ce nouvel album, qui est un double album. Je tiens à le dire parce que le concept du double album, c'est presque un concept presque désuet aujourd'hui à l'ère du streaming où finalement on peut avoir des albums de 44 titres regroupés sur un seul CD, on aurait dit à l'époque.
Ouais,
toi, t'es attaché à cette idée de double album depuis La Superbe, t'en as fait plusieurs, c'est encore le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui te plaît dans ce format du double album?
Parce que c'est la dernière émanation, le dernier appel de ce qu'étaient les vinyles, en fait. Quand on en écoute aujourd'hui, on se rend bien compte qu'après une face, il faut se lever, changer de face, et que souvent, de la face A à la face B, il y a un énorme contraste. On pouvait le permettre. C'était vraiment deux salles, deux ambiances, vraiment de changer de face. C'est comme le célébrissime Abero, de la face B, il y a un medley de ouf. Et j'avais envie de faire deux faces vraiment très distinctes. Donc, mais c'est vrai que ça aurait presque pu tenir sur un CD, ou ça aurait pu tenir, mais je voulais pas remplir un disque jusqu'à la gorge comme ça. Alors, on doit pouvoir en écouter seulement l'une ou l'autre aussi, quoi.
Oui, pour toi ça veut dire quelque chose, c'est pas une question de remplissage, c'est vraiment deux parties différentes, donc il y a la partie résident et la partie visiteur. Qu'est-ce que t'as voulu dire dans ces deux parties, qu'est-ce que ça signifie?
La partie résident, c'est déjà l'album il est plus écrit et enregistré en France et en Europe, enfin en Belgique et en France, et je trouve qu'il est assez raccord avec le reste de ma discographie, c'est quand même, il ressemble à certains trucs que j'ai déjà fait. Le second, c'est un album plus étrange, mais j'ai jamais fait de chanson où ma voix est aussi peu orchestrée derrière. Et même, il y a un hommage à la chanson française et à la musique latino-américaine que j'avais jamais fait. Donc, et j'aurais pas pu faire un album seulement comme ça. Je le sais, je me serais senti mal.
C'est-à-dire que tu étais plus à l'aise avec l'idée de le coupler avec quelque chose.
Ouais, mais j'ai toujours aimé l'idée des contrastes aussi, quoi, ouais. De pouvoir avoir un peu la chanson miroir qui répond à l'autre et qui permet de faire des montages comme dans un film un peu. Il y a des grands albums qui sont des albums où l'ordre est hyper important.
Complètement,
toute façon,
complètement. C'est intéressant que tu parles de ça parce que hier, nous avions Oxmo dans l'émission, que tu connais, je sais, qui nous disait que lui, il sortait son dernier album, comme toi aujourd'hui.
Mais pas son dernier.
Si. Justement. Ah, je t'assure que
c'est une très mauvaise nouvelle.
Je t'assure, mais ça ne veut pas dire qu'il arrête la musique. C'est là où lui, il pense, il est même convaincu que le format album va mourir et que c'est pour ça qu'il le fera autre chose. Et c'est vrai que finalement, le format album est aussi associé peut-être à une époque de l'industrie de la musique. C'est à la base, c'est quand même un format qui est poussé par l'industrie. C'est des CD qu'on vendait, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, qui pour le coup a toujours fait des albums, qui là encore c'est le cas, qui les construit comme tel avec presque une histoire. Qu'est-ce que ça te, comment tu te positionnes par rapport à ça, peut-être à ce changement de l'industrie.
Il se trouve que c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration et amitié qui a dit ça. Donc ça fait réfléchir fatalement. Ouais. Mais moi, je considère qu'il faut avoir le cheminement d'un album pour en fait se trouver soi-même aussi, pour être inspiré aussi. Si on part sur une aventure de quelques titres à chaque fois, bon ok, on peut tout mettre dans un titre, mais parfois en faisant des erreurs ou même en remontant le courant, en se disant putain mais en fait ça c'est vraiment bien, en fin d'album de se dire peut-être que la chanson que j'avais fait au début je devrais l'orchestrer comme ça, ça permet quand même de trouver des ressources dans le parcours qui est dans l'enregistrement d'un album. Mais si Oxmo a raison, moi je ferais comme lui, je ferais plus d'album, mais bon, je sais pas.
T'as parlé justement de côté aussi, le côté sud-américain, en tout cas on sait que t'as un lien évidemment avec l'Argentine, et tu cites aussi le Brésil sur cet album.
Bien sûr,
il y avait évidemment l'album que t'avais composé pour Henri Salvador, un album de bossa nova, et c'est vrai que j'ai le sentiment que c'est la
peut-être la première fois que c'est aussi présent dans ta musique.
Absolument.
En tout cas. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que justement tu as été au Brésil, j'imagine?
Ouais, justement, j'ai été visiteur et du Brésil et de l'Argentine, mais aussi de ma propre musique, parce qu'en général, ce genre de chansons, je les donnais ou on me les demandait à des gens qui les interprétaient, mais moi je les chantais pas. Il y a même eu un album de ma petite sœur Coralie Clément qui était intégralement brésilien, si j'ose dire. Mais ouais, je me sentais pas. Peut-être il faut avoir. Vous savez, la voix elle est tellement devant dans ce genre de disque que peut-être que j'étais trop pudique vocalement aussi pour y aller. Un truc aussi. Quelque part, en mettant beaucoup d'orchestration, ça, on se sent un peu dans un costume assez.
Ouais. Cette histoire justement de la voix, parce que c'est vrai que depuis le début de la carrière, on cite beaucoup de qualités chez toi, l'écriture, le Benjamin Biolay, le musicien, et parfois on a pu entendre le fait que justement. C'était pas forcément un chanteur avec une voix. T'as prouvé avec le temps, effectivement, que c'était le cas. Mais est-ce qu'il t'a fallu du temps pour être à l'aise avec, justement, la voix et le côté « Oui, je suis un chanteur et j'ai de la voix ». Est-ce que toi aussi, peut-être que quand on entendait des critiques, il t'a fallu un peu de temps pour l'assumer complètement, cette voix?
Oui, c'est compliqué. Moi, j'écrivais des chansons, donc il fallait les chanter. Mais je me disais « Je suis pas un chanteur, je suis juste un mec qui écrit des chansons et je vous les montre dans leur forme la plus simple. » Et puis à un moment, j'ai essayé de faire un peu le chanteur et je me suis rendu compte que j'y arrivais en fait. Donc c'était pas la peine d'avoir un tel complexe par rapport à ça. Mais aussi, moi, dans ma jeunesse, j'étais entouré de vocalistes exceptionnels, des gens extrêmement doués et qui ont des voix singulières. Et donc, puis même les gens, je connais pas beaucoup de personnes qui aiment leur propre voix, quoi. C'est quand même, c'est toujours une épreuve, quoi, de surmonter ça. Mais maintenant, elle me dérange plus, en fait.
Sur l'album, il y a plusieurs morceaux. Là, il y en a 14, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est 2x12 titres. Ouais. Et il y a notamment un morceau qui s'appelle « Juste avant de tomber ».
J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler. Mais vu la fessure, mon berceau, qui de près s'est penché. J'écris ça juste avant de tomber.
Alors, tomber, parce que c'est... Toujours intéressant avec les albums de Benjamin Biolay, c'est que c'est très bien écrit, parfois c'est aussi assez abstrait. Moi, quand j'écoute un de tes albums, je me pose des questions. Parfois, je me demande qu'est-ce que tu veux dire. Donc là, quand tu parles de tomber, quand tu parles de chute, de quoi tu parles?
Là, en fait, je parle de l'enfer que je ressens avant de monter sur scène, par exemple. C'est pas vraiment, je parle pas de la mort.
Oui, moi j'ai.
Je parle d'une version de l'âme et d'un format de la mort. On l'appelle petite mort, ou on l'appelle coma, ou on l'appelle passage à vide, on dit ce qu'on veut, mais c'est vrai que. Cette peur, panique qui me prend chaque fois que je vais monter sur scène.
C'est encore le cas aujourd'hui, systématiquement?
Non, pas systématiquement. Mais c'est ça le pire, c'est que je sais jamais quand ça va me tomber sur le coin de la gueule. Il y a des moments où je pense que tout va bien. Et d'un coup, je suis attaqué par une peur abyssale. Et ça me. C'est bouleversant. Et je voudrais me tirer. Mais en même temps, si je me tire, je m'en voudrais trop. Et. Donc c'est ce genre de moment un peu borderline que je décris dans cette chanson.
Est-ce que ça veut dire aussi que tu. Tiens encore à ça, en tout cas, que t'es encore concerné par ça? Peut-être que le jour où t'as plus le trac, c'est peut-être que tu t'en moques un peu.
J'ai l'impression, je connais des gens qui n'ont pas le trac, qui sont complètement concentrés dès qu'ils rentrent, mais d'autres quoi, qui prennent ça un petit peu par-dessus la jambe. Donc les deux cas sont possibles.
C'est intéressant parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui peuvent t'imaginer comme quelqu'un justement de très nonchalant, voire même de très détendu par rapport à ça, ce qui n'est pas le cas en réalité.
Non, c'est pas le cas du tout, mais c'est vrai que c'est la façon que j'ai trouvé de lutter contre tout ça et d'essayer de trouver c'est une forme d'armure en fait, de se dire joue la cool et puis fais croire qu'il peut rien t'arriver. Alors que moi, même monter une marche, j'ai peur de tomber, tu vois, quand je suis sur scène, avant, quand j'imagine.
Ça veut dire que t'es pas vraiment cool selon toi? Parce que moi j'imagine Benjamin Biolay comme un mec cool.
Non, je suis cool en studio, vraiment. Mais avant de monter sur scène, j'ai peur.
Okay. C'est un message d'espoir pour les gens qui sont...
La peur, je pense que ça marche pas.
Ouais, ça va pas ensemble. Il y a un autre morceau qui s'appelle « Oh, la guitare ».
Oh la guitare pour le rêve. Oh la guitare pour l'oubli. Le verre à quoi la main le lève. À la joue longue bordant les lits.
Oh la guitare, c'est un texte de Louis Aragon.
Ouais.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'approprier ce texte?
Je vérifiais un truc par rapport à une chanson de Georges Brassens qui était sur un texte de Louis Aragon, et en fait je suis tombé sur ce poème qui s'appelle « Oh la guitare » et qui était dédié à Pablo Neruda, que j'adore. Et puis je l'ai lu et je me suis dit « Tiens, c'est bizarre, la rythmique de ce poème, la versification, elle ne me paraît pas naturelle. » Donc j'ai la conviction qu'il l'a écrit sur une musique qui existe déjà, peut-être sur mon manège à moi, ou une chanson. Et j'ai essayé d'en faire une. Je me suis dit, ça c'est une chanson, et j'ai essayé, j'ai trouvé ça pas mal. Et puis, mais c'est, je fais jamais ça, et peut-être je le referai plus, mais c'était hyper agréable.
Bon, je propose qu'on écoute un morceau déjà sorti de l'album, c'est le morceau Le Penseur. Ouais, comment est-ce que tu présenterais ce morceau si tu devais le lancer à la radio là?
C'est un morceau... Oh putain, le présent de lancer à la radio, la vache. Non, mais c'est un morceau assez sincère, assez simple de facture, mais que je trouve représentatif de ce qui est un peu ma façon d'écrire des chansons.
Benjamin Biolay, Le Penseur.
S'empare d'une lame invisible, puis solennellement désigne le port où s'alignent les grues, là où jadis il a vécu une forme de bonheur indicible, avec sa femme, son chien, ses filles. Il se dit, je suis encore chaud, j'aime bien mourir maintenant.
Penseur de Benjamin Biolay, extrait de son nouvel album, Le Disque Bleu.
France Inter. Mehdi Maizi, à la régulière.
Benjamin Biolay, avant de continuer à parler de ce nouvel album, quelques questions pour toi. Un petit quiz express.
Allez.
Le moment de la journée où tu écris le mieux?
Maintenant, c'est le matin.
Ah ouais.
C'est quand je suis pas arrivé depuis très longtemps, que j'ai pas regardé les informations, que j'ai pas lu, que j'ai même pas regardé mon téléphone ou je sais pas quoi. Il y a une espèce d'énergie que j'aime bien. Mais c'est assez nouveau, ça doit faire 4-5 ans. Avant, c'était vraiment la nuit.
Ouais. Marseille ou Paris ?
Marseille, mais j'aime bien Paris, hein. Mais Marseille, c'est pas très loin de Sète. Et puis, j'adore la Méditerranée, j'aime Naples, j'aime Marseille, j'aime Sète, j'aime ce genre de ville.
C'est aussi parce que sur l'album, il est évidemment question de Paris. Il y a un morceau qui s'appelle Adieu Paris. Et tu racontes aussi, on a l'impression que tu as un vrai besoin de soleil plus que jamais,
c'est
d'été,
vrai, c'est vrai.
Et que les larmes de Paris, sa pluie, t'ont un peu épuisé. Il y a un peu ce sentiment-là sur l'album quand même.
J'avoue, puis il y a aussi une allégorie sociale. Il y a une violence sociale, une violence politique. Il y a de la haine raciale, de la discrimination partout. Moi, à Paris, dans les autres villes, mais c'est quand même une ville où tout le monde est les uns sur les autres. Il y a une certaine tension quand même. Et puis il y a aussi cet entre-soi typique de Paris, quoi. Tout le monde se connaît à peu près, qu'est-ce que ce soit, qui est un peu quelque chose que j'ai envie de fuir quand même.
Est-ce que tu as envie de fuir Paris ou même la France globalement? Est-ce que
non,
tu t'es...
Mais non, mais sans... Même Paris, la capitale de cette ville là où on est, là, je la trouve magnifique. Bon, pas quand il fait ce temps-là, mais. Mais c'est une très belle ville. Et fuir la France, si je la fuyais, ce serait pour y venir. Ça reste quand même le pays qui m'a éduqué, qui m'a nourri et à qui je dois beaucoup. En étant étudiant du conservatoire, moi je suis très conscient de ce que m'a amené la France.
Mmh. Gainsbourg ou Bachung?
Ah, c'est dur, hein, c'est vraiment dur. Mais je vais dire Gainsbourg, parce que ouais. Bachung aurait dit Gainsbourg aussi.
Ouais. D'ailleurs, tu cites Melody Nelson sur l'album. C'est pour toi une œuvre un peu... Est-ce que c'est l'œuvre définitive?
C'est l'œuvre qui a changé ma vie quand même. Quand j'étais petit, j'aimais que la musique anglo-saxonne. C'est principalement la musique qui venait de Manchester, tu vois, le post-punk, les trucs comme ça.
Ouais.
Et il y avait les débuts aussi des trucs de rap qui étaient assez cool et tout. Donc j'écoutais absolument rien de français et ce disque m'est tombé dessus et il était à la croisée des chemins de tout ce que j'aimais, un peu rap parce qu'il est parlé, parce qu'il y a et avec de la grande pop musique, mais surtout des grands textes en français. Donc je me suis rendu compte que c'était possible à la condition de pas trop chanter. C'est aussi pour ça, pendant des années, parce que dans cet album, il fait cette démonstration que le français peut être une langue exquise quand elle est susurrée ou quand on est juste narrateur, pas vocaliste, forcené.
Écoutons un extrait.
Ah oui.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça.
Une chanson que tu aurais aimé écrire?
Elle avait de l'amour.
La mère de Charles Trenet, j'aurais aimé l'écrire.
Ouais.
Ouais.
Pourquoi?
Parce que je serais blindé et puis qu'elle est cool.
Réponse parfaite. Un réalisateur ou une réalisatrice avec qui tu rêves de tourner?
Arnaud Desplechin, quand même, j'aime beaucoup. Ouais. Hein, ouais.
Une bande originale parfaite selon toi, quelle est la BO?
Quasiment tout ce qu'a fait Danny Elfman pour les films de Tim Burton, c'est de la folie, quoi. C'est vraiment. J'aime aussi évidemment Jed Williams, comme tous les cinéphiles de ma génération, mais j'avoue que le niveau de rapport entre Lynch et Badalamenti, c'est difficile à choisir.
Ouais, ouais. Twin Peaks, c'est peut-être la meilleure BO.
C'est quand même une BO de fou et qui va tellement bien avec ce que
exactement.
Ça raconte. Ou ce que ça raconte pas d'ailleurs, c'est ça qui est formidable.
Exactement. Benjamin Biolay est avec nous ce soir. Alors sur l'album, il y a un morceau aussi qui s'appelle Mauvais Garçon. Et on a aussi ce sentiment-là quand même que t'as toujours aimé les mauvais garçons, les voyous. Mmh. T'as toujours une forme de défiance vis-à-vis de la police. T'aimes bien quand même le désordre, ce sentiment-là.
J'aime pas l'ordre en tous les cas, j'aime pas en recevoir, j'aime pas en donner, et j'aime pas trop... Après j'aime bien les voyous dans la mesure où ils ont pas fait des choses répréhensibles.
Oui.
Selon ma morale à moi, mais oui, évidemment, mais je suis comme beaucoup de gens, on a grandi dans une culture de valorisation du voyou, en fait, aussi, quoi.
Tu parles du cinéma, notamment?
Par exemple, le phénomène Scarface, il est fou, parce qu'on est tous complètement cons du messie, à la fin, ça se passe pas bien du tout pour lui. Donc, il y a un truc, on a toujours été attirés par ça, quoi. Je pense que, même le phénomène du hip-hop, on sait tous le CV judiciaire de Snoop Dogg et tout, à la suite, dès le début, il y avait quand même une fascination à une époque où, normalement, on aurait dû se dire « ce mec-là, c'est affreux, c'est un criminel et tout ». Il y a quand même, et même les romanciers, mais de toute façon, le père des poètes et des chansonniers français, c'est François Villon, justement, qui était quand même un peu un voyou aussi.
Ouais, on a ce truc-là. Tu viens citer Scarface, qui est un film évidemment classique de De Palma. 10 ans après, De Palma a réalisé avec Al Pacino L'Impasse, Carlitos Way, qui pour moi est un peu une forme de rédemption de Tony Montana. Je voulais juste entendre dire ça. Parce que moi, je préfère, j'adore les deux, mais je crois que je préfère L'Impasse.
Ah, moi, je préfère Carlitos Way.
Bah, on est d'accord. Carlitos Way, c'est le titre original. Donc
Scarface, c'est trop samplé. Il y a un moment aussi, c'est insupportable quand t'as un film. Entre le visuel, les propos, les samples, les trucs, c'est cool, mais stop.
Toi, justement, est-ce que la fascination d'un film comme Scarface, elle vient justement de ton écoute du rap, parce que tu disais, t'as écouté beaucoup de rap. Est-ce que c'est via le rap que tu le découvres ou c'est...
Au début, je connaissais, mais je me rappelle, avec mon premier groupe, on prenait une chanson de Live to Crew, To Live Crew, et je savais même pas ce que ça disait.
To Live Crew, c'est un groupe de Miami.
Et je chantais Fuck Martinez, Fuck Martinez. Je savais même pas qui était Martinez, je savais même pas ce que voulait dire Fuck. Donc il y a un truc, j'aimais cette énergie, comme les premiers Beastie quand c'est arrivé et tout. Et ouais, c'était comme le rock, enfin, on faisait pas du tout la différence.
Ouais. Sur le morceau Mes Souvenirs que je citais un peu plus tôt, enfin, où tu cites notamment Melody Nelson, tu cites plusieurs choses. Mes Souvenirs, tu cites Paul Valéry, tu cites la 4L GTL bleue du Paternel, et tu cites l'anthésite.
Ouais.
Alors, je sais pas si tout le monde sait ce qu'est l'anthésite. Moi, ça m'a fait quelque chose, parce que ma mère mettait dans ses verres d'eau, et ça me donnait un goût de réglisse.
Ouais, c'est que...
Et ça m'a fait quelque chose, parce que j'avais complètement oublié l'existence.
Parce que dans tous les foyers où les parents essayaient de s'en sortir un peu difficilement avec le budget alimentaire, les enfants et tout, pour pas donner cette impression aux enfants, donner l'impression qu'il y avait du coca par exemple, on versait une goutte d'anthésite qui était un petit colorant qui était aussi un sirop qui donnait beaucoup beaucoup de goût, donc on pouvait passer 3000 litres de coca pour la somme de 23 francs, donc c'était un peu un trésor de la débrouille, l'anthésite.
Tout à fait. Sur l'album, on retrouve Jeanne Chéral, qui était présente sur l'album La Superbe, sur le morceau Brandt Rhapsody.
Je rêve de ton corps, je rêve de ta bouche, je te veux près de moi, je veux que tu me touches, je rêve de ta peau et de tes mains, je ne pense qu'à toi, je bosse plus, je fous rien.
Mon amour, tu dormais si bien que j'ai pas osé te réveiller, je travaille jusqu'à 7h20, si tu veux après on peut s'appeler. Je sais pas ce que tu fais ce soir, moi j'ai rien de prévu. Si t'as du travail, je te dis à plus tard et j'embrasse ton cul.
Je suis à toi, je te veux, je pense à nous.
C'est un morceau assez bouleversant, classique, on peut le dire, il est vu aujourd'hui comme un classique. Est-ce que c'est pas trop compliqué de recollaborer avec quelqu'un quand on a fait un morceau aussi parfait que celui-ci?
Non, parce que je le reconnais super bien, on est des très grands amis depuis super longtemps et on a fait plein d'autres trucs, mais c'est vrai que ce morceau, il a fait beaucoup d'effets et c'est vrai que c'est une des surprises de la vie et pour moi et pour elle, parce que quand on l'a fait entre nous, on trouvait ça bouleversant, mais on se disait bon, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens chantent pas, enfin ça paraissait bizarre et puis voilà, il a quand même une belle vie ce morceau. Ouais.
Comme cet album d'ailleurs, La Superbe, sorti en 2009, qui est vu comme une de tes réussites, mais c'est vrai qu'il y a un album qui est souvent cité. Est-ce que t'en as marre? Est-ce que c'est un poids, un album comme ça, ou pas du tout?
Non, c'est quand même génial d'avoir un album comme ça. Au pire, on se dit...
Au moins, il y a celui-ci. Alors, il y a aussi ce morceau Testament, qui est écrit en alexandrin.
Ouais, j'aime bien.
Est-ce que c'est un exercice compliqué à réaliser?
Pas trop, quand on est musicien, parce qu'il y a quand même beaucoup de mélodies qui marchent en douce, si on écoute bien et tout. Et j'ai toujours bien aimé faire ça et tout, des alexandrins. Quand j'étais petit, je faisais des poèmes ridicules pour dire... pour dire ne me dérangez pas, je suis en train de faire ça. Donc je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus dur.
Quand tu commences à écrire, c'était ça? C'était des poèmes quand t'étais plus petit?
Non, des poèmes, parfois pour rigoler. Non, mais moi j'ai commencé à m'intéresser aux mots vraiment pour les mettre dans la musique. C'est vraiment la passion des chansons et puis très vite la conscience du ridicule de l'anglais, en tout cas du mien, quoi. Je me disais non, c'est pas possible.
Parce qu'au départ, tu écrivais en anglais?
Bien sûr, comme tout le monde. Avec le dictionnaire franco-anglais, je butais rien. Je racontais des trucs en français, je traduisais mal, etc. Oui, oui. C'était gênant.
Oui, il n'y avait pas Google Traduction.
Mais même s'il y avait eu Google Traduction, t'as aucune dextérité avec les mots, t'as pas l'habitude, c'est pas ta langue maternelle, t'as pas entendu des jeux de mots toute ta vie.
C'est pas ta culture.
Tu vois, moi je déteste les gens qui disent Élysée de Versailles, lieu de vie c'est Versailles, mais au moins je l'ai entendu toute ma vie, ça m'a donné ça m'a fait comprendre qu'on pouvait jouer avec le sens des mots, avec les sonorités des mots en anglais. Oui. Maintenant, j'ai un anglais plus pratiqué, donc peut-être j'y arriverai, mais j'ai pas envie.
Est-ce que tu parles espagnol aussi ?
Ouais.
Ouais, tu parles bien espagnol maintenant, couramment ?
Ouais, une espèce d'espagnol porteño, de salaire de Buenos Aires, ouais.
Très bien. Alors, il y a un morceau aussi qui est plutôt touchant, c'est le morceau Kika, qui est un hommage à ton chien.
Ouais, un peu Kika, qui était surtout à ma grande fille.
Ouais. Et tu lui c'est vrai qu'il y a des morceaux parfois qui sont sur des sujets. Enfin, c'est important. Un chien fait partie de la famille. Comme il y a un morceau qui finalement parle du voyage en avion. Enfin, il y a parfois des choses simples, mais tu n'hésites pas à leur consacrer une chanson entière, plusieurs couplets, parce que ça fait vraiment partie de ta vie, de ton quotidien, et tu y vas en fait.
J'y vais parce que ça a toujours été le cas. La vraie question, c'est de savoir si je les garde après les chansons ou si je les publie.
Ouais,
quoi.
Mais tu les fais en tout
mais
cas.
Je les fais tout. J'ai toujours fait. Il y a plein de chansons de moi qui sortiront jamais, où je raconte des trucs très précis comme ça. Et puis je me suis dit non, mais ça c'était circonstanciel et c'est pas la peine de le sortir. Mais ça fait partie de ces petites chansons qui sont à usage intime qui finalement finissent sur les disques.
Ouais. Bon, je suis content en tout cas que tu n'aies rien contre la superbe, car je propose qu'on remonte en 2009, pardon, et qu'on écoute le morceau éponyme, La Superbe.
Côté de la mer, quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'Angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque de Russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage. D'un verre de Campari, du bon vouloir, de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire, on flaire la flamme singulière. On gagne, on perd, on perd la guerre, la superbe. D'un simple démenti, d'une mauvaise vie, d'une mauvaise passe. Le silence est aussi pesant qu'un porte-avions qui passe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, et la merci d'un sacrifice. D'une mort à crédit, d'un préjugé et d'un préjudice. Le soleil s'enfuit comme un savon soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flâne. On flaire la flamme singulière. On gagne, on perd. On perd la gagne, la superbe. On reste, Dieu merci. Du plafond décrépit qu'on observe à l'horizontale. Le soleil est parti, la neige tombe sur les dalles. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un lampadaire. D'une douleur endormie, d'un chasse-spleen, un soir d'hiver. La vieillesse ennemie reste la seule pierre angulaire. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire. On flaire la flamme familière. On gagne, on perd la gagne, la superbe. Dieu merci et la merci d'une étincelle. quelque part à Paris, au fin fond du bar d'un hôtel. Dès la prochaine vie, je rêve de se rester fidèle. Quelle aventure.
La superbe Benjamin Biolay, extrait du morceau éponyme sorti en 2009, un double album déjà.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Alors Benjamin, tu es, on l'a dit, un chanteur, un auteur, mais aussi un comédien. Tu fais partie finalement de ces gens qui ont réussi, je crois, avec succès à passer de la musique au grand écran. Et même au petit écran, parce qu'il y avait la série La Fièvre. Et ça m'a donné envie de parler de quelques musiciens qui ont fait cette transition-là ouais, aussi, avec succès. Tu réagis, si tu le veux, bien sûr. Alors j'en ai pris trois, c'est évidemment pas exhaustif, mais c'est pour en parler. Et je commence avec, on a parlé un peu de rap, avec Will Smith, qui avant d'être une superstar d'Hollywood, peut-être que les gens ont oublié, Will Smith est avant tout un gamin de Philadelphie, rappeur précoce, il forme dans les années 80 le duo DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, du rap joyeux, radiophonique, récompensé d'ailleurs d'un Grammy Award pour le morceau Parents Just Don't Understand, mais le vrai tournant bien sûr c'est la télé, le Prince de Bel-Air, sitcom culte où il joue une version un peu fantasmée de lui-même. C'est là que Will Smith apprend tout, le timing comique, le regard caméra, la gestion du public. Et de cette légèreté télévisuelle, il glisse vers le grand écran avec une aisance déconcertante. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. C'est toute une époque.
Ouais, je regardais ça l'après-midi.
Bah, bien sûr. Et après, il y a eu bien sûr plein de films. Independence Day, Men in Black, Ali, La Poursuite du Bonheur. Will Smith est devenu une figure du cinéma américain capable de passer du blockbuster au film plus émotif. Il ne joue plus le rappeur cool, il devient une star universelle, symbole d'un entertainer total. L'un des rares à avoir réussi la transition sans jamais vraiment renier son ADN musical, même dans ses films. Il garde le sens du rythme, du flow, de la punchline. Il est même souvent chargé de la BO des films sur Men in Black ou sur le très médiocre Wild Wild West. Sun up to sundown, rolling around, see where the bad guys ought to be found and make them lay down. The defenders of the West, crushing all pretenders in the West. Don't mess with us, cause we in the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West, when I stroll into the Wild Wild West, when I bounce into the Wild Wild West. Une reprise
de Steve
Wonder, exactement, à peine déguisé. Qui est présent sur le même son que Key of Life, je crois, de le classique, peut-être ultime.
Le classique.
Exactement. Alors en France, un autre raconteur d'histoire a lui aussi franchi le pas, Aurel San. Rappeur, réalisateur, scénariste, il a toujours eu cette envie de fabriquer des univers. D'abord avec le film Comment c'est loin, son premier long métrage, co-écrit et co-réalisé, un film à la fois générationnel et intime sur la galère créative, sur l'attente, sur l'amitié. Un long clip étiré dans le temps, mais aussi une œuvre sincère, bourrée d'humour et d'humanité. Laisse-moi faire ce que je fais de mieux. Je continuerai mes conneries jusqu'à ce qu'ils me prennent au sérieux. Un jour on est venu au monde. Depuis on attend que le monde vienne à nous. Tant mieux si la route est longue. On pourra faire un peu plus de détours. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. Ça c'est un morceau extrait de la très bonne BO du film. Depuis, Aurel San a peaufiné sa grammaire visuelle, ses clips, sa série bloquée, ses documentaires, comme Montre jamais ça à personne évidemment. Tout est construit comme un récit avec des héros ordinaires et des décors familiers. Et cette année, il revient au cinéma dans un nouveau projet très attendu, un long métrage de fiction intitulé Yoroi, dans lequel il sera question de phénomènes surnaturels, d'armures ancestrales et de culture japonaise. Et puis, il y a Björk, par exemple, j'aurais pu en citer plein d'autres, mais j'ai envie de parler de Björk. Autre galaxie, autre intensité, en 2000, Lars von Trier lui propose le rôle principal de Dancer in the Dark. Elle y incarne Selma, une ouvrière immigrée en train de perdre la vue, un rôle extrême et viscéral. Le film décroche la Palme d'Or, Björk remporte le prix d'interprétation féminine, mais l'expérience la brise, le tournage est un enfer, tension permanente avec le réalisateur, épuisement émotionnel total. Depuis, elle s'est faite très très rare au cinéma, mais paradoxalement, peut-être que Dancer in the Dark reste l'un des plus beaux exemples de fusion entre musique et cinéma, parce que Björk ne joue pas, elle ressent le rôle et quand elle chante I've seen it all, on comprend que la frontière entre performance et vérité vient de s'effondrer. Say we're spent, I... Est-ce que toi, Benjamin, il y a peut-être des chanteurs ou des chanteuses qui t'ont inspiré, en tout cas peut-être donné envie de faire ce pas-là, ou qui t'ont, ou que t'as regardé en tout cas quand t'étais plus jeune?
Bah, il y en a deux, ouais, où je me disais, putain, c'est incroyable comme ils jouent bien. C'était Alain Souchon et Jacques Dutronc, ouais, qui étaient deux grands. Et même Eddie Mitchell, à chaque fois que je voyais au cinéma, je le trouvais impeccable. Mais c'est un truc d'interprète aussi. Et puis en fait, c'est une tradition française. Tous nos grands acteurs, ils étaient.
C'est vrai.
Fernandel, Jean Gabin, Bourville, et tout, ils ont tous été chansonniers aussi. C'était un truc qui se faisait beaucoup et qui se maintient plus ou moins naturellement. Philippe Catherine, c'est devenu une référence dans les deux.
J'ai failli parler lui aussi, tout à fait.
Quoi,
même Charlotte Gainsbourg, hein, par exemple.
C'est longtemps que c'est une référence dans les deux mondes.
Exactement, tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose, t'as raison, qui est une tradition, en fait.
Une tradition de musical, de gens qui chantent et qui jouent la comédie aussi, ouais, c'est... Ça date pas d'hier et ça se, y a pas de pont entre ces deux mondes, mais à un moment on s'y retrouve et puis on vient nous chercher. Et puis
toi, on est venu te chercher. C'est comme
tout
ça que
le monde,
c'est
tous les gens qu'on a cités, je pense qu'on est venu les chercher parce qu'ils étaient chanteurs ou qu'ils avaient une personnalité plus ou moins intéressante quand ils faisaient de la promo, j'en sais rien, mais ouais, on est venu me chercher. Ouais.
Bon, en tout cas, ce soir, nous sommes avec Benjamin Biolay pour la sortie du disque bleu. Et puisque nous parlons de disques, le disque bleu, je propose de me donner quelques disques importants de ta vie. Benjamin Biolay, quel est le disque de ton enfance?
C'est une cassette que j'avais volée, c'était Aux armes, etc. de Serge Gainsbourg, qui a dû sortir en 79, donc moi je suis né en 73. Et franchement, comme on dit aujourd'hui, je l'ai vraiment saigné en cachette. Parce que ma mère avait horreur des vulgarités et visiblement à son goût il y en avait quelques-unes, mais vraiment ce disque a changé aussi. Et c'était le premier truc où j'ai aimé des poésies, par exemple, parce qu'il y a Lola Rastaquer, des titres comme ça et tout, qui sont de merveilleux poèmes. Et puis ça tournait trop bien, c'était quand même enregistré en Jamaïque, etc., avec des très bons musiciens. Il doit y avoir Sly et Robbie, ou peut-être sur celui d'après, mais... Donc c'était une cassette et j'étais rentré dedans à cause d'une chanson qui s'appelle « Eau et gaz à tous les étages » en fait, où il dit juste « Je pisse et je pète en montant chez Kate, moralité, eau et gaz à tous les étages ». Voilà, et je me suis dit « Il est vraiment con lui » et ça m'avait beaucoup plu. Et puis, du coup, je me suis intéressé à sa poésie.
Donc on revient toujours à Gainsbourg en fait. Hein. C'est vraiment un point de départ en tout cas
en
pour
français,
toi dans la musique.
Ouais, vraiment, ouais.
Si je te dis le disque qui t'a donné envie de faire de la musique, ce serait sûrement aussi un album de Gainsbourg, c'est peut-être Melody Nelson.
Non, c'est l'album blanc, là, celui qui m'a donné envie de...
Donc The White Album des Beatles.
Ouais, d'apprendre tous les instruments possibles. C'est le disque blanc qui a changé ma vie.
Plutôt Beatles que Stones dans l'éternel débat.
John Lennon, donc je rentre même pas dans le débat. Moi, j'aime particulièrement John Lennon.
Ok, mais t'aimes les Stones, on peut aimer les deux.
J'adore les Stones. Ouais. Okay. Mais on va dire qu'il y a 40 chansons des Stones que j'adore. Il y en a peut-être le double des Beatles ou de John Lennon.
On raconte souvent que les Beatles, c'est un fait d'ailleurs, que les Beatles, finalement, leur période de règne ne dure pas si longtemps que ça. Et c'est le cas d'ailleurs souvent dans la plupart des pop stars. Est-ce que ça peut faire peur quand on a un artiste qui mène une carrière depuis longtemps comme toi, finalement, de se dire que être là depuis 15, 20 ans, c'est assez rare en réalité, parce qu'il y a plein d'artistes qui ont été très hauts et qu'on ne connaît plus après 5, 6 ans.
Bien sûr.
Finalement, c'est une bénédiction. Et même, c'est très rare de rester 10 ans, 15 ans, 20 ans, et d'être encore encore attendu,
bien
finalement.
Bien sûr, c'est une chance incroyable, quoi. Mais après, les Beatles, c'est leur choix. Je pense qu'ils auraient...
Non, mais bien sûr. Ouais. J'ai cité Beatles parce que c'est un peu l'exemple.
Mais c'est vrai, parce qu'en quelques années, ils ont révolutionné la musique. Et puis, on a l'impression que derrière, ils n'ont rien fait, alors qu'ils ont fait des carrières extraordinaires. Mais les Beatles, c'est tellement fort. C'est un truc tellement bouleversant pour la planète.
C'est ça.
Que même si John a fait Imagine et que tout le monde trouve que cette chanson elle est au niveau des Beatles, pour les gens, les Beatles, ça reste un truc hors du commun. Mais moi, je suis conscient de la chance que j'ai de faire ça depuis 25 ans et tout, c'est fou.
Bon, écoutons en tout cas un morceau du White Album.
Avec plaisir. She's not a girl who misses much. Oh yeah. With the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnailed boots. Donc ça, c'est un disque écrit et chanté par John Lennon, justement, dont tu viens de parler.
Le disque idéal pour un date.
Faut pas que ça... Alors ça dépend si c'est un date où on n'a pas l'intention de parler ou de se parler un
peu. Au début, on parle.
Au début, on parle.
Ouais.
Ouais, faut mettre un truc chill quand même, genre, je sais pas, Michael Kiwanuka, là, le premier album, c'était trop bien, c'est bien
c'est
date,
super, ça,
non
ouais. Ouais, c'est bien, et puis c'est moins cliché que Barry White,
ouais, quand même,
même si respect éternel à Barry, évidemment, mais évidemment, c'est un peu plus, voilà. Le disque qui te redonne foi en l'amour. C'est tenté que tu perds la foi, mais en tout cas, un disque qui te donne envie d'aimer.
Le Love Supreme de Coltrane. Moi, j'aime bien aussi, c'est mystique et tout, j'aime bien ce genre de recherche. Je trouve que c'est un disque, quand on est dans une bonne énergie pour l'écouter, redonne foi en l'amour, au sens très très large, comme l'entend Coltrane.
Ben, on l'a.
Yes.
C'est Partout Resolution qu'on a envie de continuer à écouter, mais ouais, c'est magnifique, évidemment. Le disque, un disque que tu associes à Paris, qui est quand même un sujet de l'album.
À Paris ?
Ouais.
Beaucoup de disques de Georges Brassens, qui ont été faits dans le 14e, écrits dans le 14e ou dans le 15e arrondissement, et je trouve qu'il en parle, pour un 7-toi, il en parle trop bien, genre le petit bistrot, je sais pas quoi, les chansons comme ça...
D'ailleurs, tu reprends Les Passantes.
Les Passantes, mais je trouve que ouais, Brassens, étonnamment, même si je sais mieux que beaucoup de gens qui les sait, toi, il me fait vraiment... Pour moi, il décrit très très bien Paris, quoi.
Et alors, dernière question avant qu'on écoute un morceau. Parce qu'il est aussi question, je l'ai dit, de soleil, peut-être d'envie de mer, d'été. Le disque parfait à écouter face à la mer. Je parle pas de Calogero et Passy. Je viens de penser à cette vanne, je m'excuse.
Non, c'est pas une vanne, ça aurait pu être le cas.
Oui, mais non.
Mais non. un disque parfait, écoute. Ah, franchement, le Damian Marley qui s'appelait Welcome to Jamrock. Je l'ai vraiment. Et la deuxième chanson, elle s'appelle There for You, un truc comme ça. Je pense que face à la mer, ça, c'est.
C'est parfait. Très bien. Je propose qu'on écoute un morceau qui n'a rien à voir avec Damian Marley, mais qui est de qualité aussi. Un morceau de Olivia Dean. Il fait partie de cette nouvelle génération britannique qui redonne à la soul ses couleurs d'origine, celles du cœur et de la sincérité. Révélée avec son album Messi, Olivia Dean mêle élégance et vulnérabilité. C'est encore le cas sur son dernier album, The Art of Loving, dont est extrait le titre qu'on va écouter, Man I Need.
Best friend, I can come see.
c'était Man I Need de Olivia Dean, un morceau présent sur son dernier album The Art of Loving.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Nous sommes avec Benjamin Biolay ce soir, qui sort l'album Le Disque Bleu. Enfin, l'album est sorti d'ailleurs, au moment où l'émission est disponible. Et je vais demander des recommandations. Et tu m'en as donné plusieurs. Notamment un album d'artiste que je ne connaissais pas, je dois le reconnaître. Alors, comment on pense ? Catriel et Paco Amoroso. L'album s'appelle Papota et le morceau qu'on va écouter s'appelle El Dia del Amigo. C'est super bien ça.
Ah ouais, c'est vraiment le plus gros phénomène argentin du moment.
Ok.
Ces deux artistes qui avaient déjà une existence séparément, ils sont de la bande de Bizarrap, donc ils avaient fait des sons avec lui qui avaient eu de l'écho quand même. Et ils se sont mis ensemble, et là ça s'est mis à tout péter. Ils ont fait en fait l'émission Tiny Desk.
Oui.
Et ils ont fait 40 millions de vues en très très peu de temps, ce qui est énorme pour l'émission. Et là ils sont en première partie mondiale de Kendrick Lamar, donc on va aller. Et en fait, il faut vraiment voir ça, c'est d'une créativité folle, c'est super drôle. Et c'est deux grands. Paco, c'est plus un trappeur, il vient de la trappe, quoi. Et Catriel, c'est un grand rappeur, mais il joue de la guitare comme un dieu. On est sur du très très haut niveau.
On vit pas un moment aussi assez fou où j'ai. Tu sais, on n'est pas exactement de la même génération, mais en tout cas, on a connu, je pense, un moment où la pop musique, c'était globalement une pop très américaine.
Bien sûr.
C'était ça, la pop musique, en fait, pour nous, quand on vivait dans l'Occident. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, peut-être la pop star numéro 1 ou une des pop stars numéro 1, c'est Bad Bunny.
Non, mais c'est la pop star numéro 1.
Voilà. Ouais, et on est vraiment dans ce moment-là où Burna Boy qui vient du Nigeria qui est énorme, la pop est complètement recomposée et c'est plus uniquement une question nord-américaine en fait.
Alors déjà c'est moins nord-américain, mais surtout les Anglais ont perdu la bataille. Quand on était jeunes, c'est les Anglais qui nous inondaient d'une pop souvent de très bonne qualité, et au 21e siècle ils ont perdu l'affaire. Et évidemment Shakira a mis sa petite graine, etc. Et puis la musique latino-américaine est arrivée à dominer le monde, ce qu'elle est en train de faire de manière assez impressionnante quand même.
Toi, à quel moment tu t'es rapproché en tout cas de cette partie du monde de l'Argentine?
Alors moi j'ai toujours à l'Argentine, ça fait 20 ans, et j'ai toujours aimé la musique latino-américaine, mais j'ai toujours aimé le reggaeton original, en fait. Moi, j'adorais Daddy Yankee et Nicky Jam quand ils étaient ensemble et tout. Et je suis un fan et un ami de Residente, qui est le chanteur de la Calle 13, qui est peut-être l'artiste latin le plus important. Chez lui, il a genre 47 Grammy Awards, quoi. C'est un truc. Et Residente aussi, il y est pour beaucoup, quoi. Il a popularisé cette musique. Et c'est vrai que ça fait quand même, une vingtaine d'années que j'écoute vraiment les nouveautés urbaines de là-bas. Et je me doutais qu'un jour ça allait tout péter, mais ça a été lent. Par exemple, en Argentine, il y a encore 4 ans, il y avait à peine de la trappe et tout, il y avait un petit début. Et parce qu'il n'y a pas de culture hip-hop, parce qu'il n'y a plus de descendants afro-américains en Argentine. Oui. Il y a eu plusieurs génocides qui font que la culture est venue un peu d'un groupe qui s'appelait Elia Curiaquín de Valderramas, qui eux étaient fans de funkadelic, de trucs comme ça. Et puis ça s'est mis à rapper il n'y a pas si longtemps, sous l'influence des autres pays, plutôt la Colombie et plutôt Puerto Rico, qui est très loin, mais qui est un peu le phare de toute cette musique, en fait.
J'ai été demandé une série, tu m'en as donné une, là encore, que je ne connaissais pas.
Débile, je te préviens. Mais
Division Palermo. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une espèce de connerie argentine super drôle sur une espèce de brigade de civils pour un peu pallier à la médiocrité de la police là-bas, et il se passe des choses toutes plus hallucinantes les unes que les autres. C'est typiquement argentin, mais c'est deux très très bons acteurs. C'est sur Netflix, je conseille. Okay. Ouais.
Qu'est-ce que t'as aimé, toi, dans le fait de jouer dans une série? Parce que c'est à jouer dans La Fièvre, sur Canal+, qui est, j'imagine, peut-être pas la même chose, pas le même exercice que jouer dans un film. Est-ce que c'était plus simple, plus compliqué, plus artisanal? Enfin, est-ce que t'as vu une différence?
Non, c'était chaud. C'était très, très carré, leur truc. Et tout. Ouais. C'était les producteurs de Baron Noir, tout ça.
Oui,
plus Canal. Donc, déjà, il y avait du matos, il y avait toujours des grues, des trucs partout. Et j'ai trouvé que c'était un très grand directeur d'acteur, j'ai adoré, donc j'ai pas vu une grande différence. Okay. C'est juste au niveau de l'intensité, c'est comme tourner 5 films. C'est vraiment, c'est oui, long. Oui. Et j'avoue que le moment où on ne sait plus où on en est, et on dit, non mais là c'est l'épisode 2, je dis, ouais mais c'est parce quoi, je suis vivant, je suis mort, je suis... c'est compliqué quoi.
Ouais, ouais, c'est...
De switcher comme ça, c'est parce que quand on, parfois on tourne par décor en fait. Donc on ne tourne pas dans la chronologie. Mais c'était génial.
Bon, Benjamin, c'est l'heure de la question qui tue. Car il y a plein de sujets que j'aurais aimé aborder avec toi, mais malheureusement on manque de temps. Et on n'a pas parlé de foot aujourd'hui.
Ouais.
Donc la question est très simple. Benjamin, Zinedine Zidane ou Diego Maradona ?
Oh la vache, c'est horrible. Ah, c'est vraiment horrible.
Ben oui, c'est la question qui tue.
Bon, pardon Zizou, mais vraiment, Diego.
Tu dis Diego ?
Ouais, mais c'est... Ça représente des... Franchement, Zizou est pas loin de... C'est d'être aussi emblématique que Diego.
Iconique, ouais.
Ouais, franchement, c'est... Moi, je trouve que c'est le français préféré des gens. J'ai vu aux Jeux Olympiques, c'était incroyable. Même les autres athlètes qui le regardaient en quasiment en transe. Diego, il y a une dimension sociale, politique qui est un peu plus forte. Et puis, il y a une folie, malheureusement.
Puis on parlait de mauvais garçon.
Voilà, il y a une folie. Diego Maradona, s'il n'avait pas pris toutes ces cochonneries et tout, je pense qu'il aurait gagné 3 Coupes du Monde, qu'il aurait gagné plusieurs Ligues des Champions, qu'il serait toujours de ce monde, surtout. Et puis là-bas, c'est vraiment... Faut y aller pour voir l'amour qu'ont les Argentins pour ce type qui vient d'un petit ghetto qui s'appelle Ficha Fiorito, qui même est très typé, très indio, alors que les Argentins sont plutôt blancs. Et je vous dis, il y a eu des génocides.
Bien sûr.
Et Diego,
oui, donc il représente quelque chose.
C'est Dieu,
plus,
non, mais il est partout. C'est vraiment, c'est difficile à décrire.
C'est-à-dire que ici, on aime énormément Zinedine Zidane, mais là-bas, c'est sans commune mesure. Quand on parle de Diego Maradona, c'est autre chose dans le quotidien des Argentins.
Je pense que tu dois pouvoir dire, bon, je le prendrais mal si quelqu'un se mettait à tailler Zidane. Je pense, mais je lui mettrais pas une grosse tête là-bas si tu fais l'erreur de dire une connerie sur Diego. Mais courage, hein, débarre-toi derrière, quoi. Ouais. Mais si, par exemple, c'est Zidane, en moins, c'est un peu comme Zizou en 98.
Ouais. Ok.
Mais si là-bas. Mais Diego, c'est
autre chose.
Bah ouais.
Bon. Benjamin, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui.
Pareil,
vraiment. Pareil, on rappelle donc que l'album Le Disque Bleu est disponible. Allez l'écouter, c'est le 11e album de Benjamin Biolay. Et il y a encore des nouvelles choses, il y a encore de la réinvention sur cet album-là. Donc vraiment, j'encourage tout le monde à aller l'écouter. Merci beaucoup, en tout cas, merci pour ton temps et ta générosité. Merci aux personnes qui ont préparé cette émission. Alexia Lacour, Redouane Tella, une émission réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Tilaï Ravu et Nicolas Delmas. Merci aux équipes web et vidéo. Nous, on se retrouve lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France. Merci.